France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Il ne dépend pas de nous que l'événement se déclenche. Il ne dépend pas même de notre peuple que l'événement se déclenche. Pour maintenir la paix, il faut être au moins deux. Celui qui a fait la menace peut toujours la mettre à exécution. Il ne dépend pas de nous que l'événement se déclenche, mais il dépend de nous d'y faire face.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Bonjour. Depuis le 24 février 2022, début de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, le sentiment a surgi qu'une guerre généralisée en Europe sortait brusquement du domaine de l'inconcevable. Nous allons revenir ce matin sur deux avant-guerres, avant 1914 et avant 1939, pour examiner comment les peuples de notre continent et les Français au premier chef ont vécu cette montée des périls. Nous allons le faire en évitant, bien sûr, tout fatalisme. D'une part, il n'est pas inscrit dans les astres, bien heureusement, que nous marchions vers le pire. D'autre part, les contemporains de ces deux moments historiques ne savaient pas, même s'ils pouvaient la pressentir, l'issue tragique que nous connaissons après coup, et il faut parfois faire un effort pour se le rappeler. Tel ou tel excursus vers le temps de la guerre froide au début des années 50, qui ne devint pas chaude, comme on le sait, peut être d'autre part salubre, par contraste, pour l'analyse. Robert Frank, mon invité, est professeur émérite d'histoire des relations internationales à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et il n'a pas cessé de porter un regard aigu sur le thème qu'il va nous revenir d'explorer avec lui. Il va s'agir d'abord des réactions dans ces avant-guerres de l'opinion publique et des dirigeants entre unité et diversité, entre illusion et lucidité, entre patriotisme et pacifisme, devant la menace qui se dessine. Mais également de l'économie de l'armement, avec les choix budgétaires drastiques qu'elle a pu exiger, non sans des conséquences sociales aussi bien du côté des arbitrages éventuels aux dépens du niveau de vie et des conditions de travail des classes populaires. Quant aux positions prises par les écrivains et les intellectuels, elles appellent aussi l'attention, parce qu'elles reflètent les tensions de leur époque et sont parfois capables d'influencer les esprits et les cœurs. Et pour commencer, nous allons entendre Léon Blum, président du Conseil, chef du gouvernement du Front Populaire, le 24 octobre 1936, dans un discours prononcé à Toulouse, au Capitole.
J'affirme, de plus en plus pénétré que je suis par cette conviction, que le développement et la prépondérance de l'esprit démocratique dans le monde est peut-être la condition primordiale de la paix. Vous savez bien que si le règne universel du socialisme s'était établi sur le monde, la guerre ne serait plus seulement impossible, qu'elle serait proprement inconcevable. J'ai souvent exprimé la conviction que si, dans l'Europe de 1914, toutes les puissances avaient eu la démocratie pour régime, la guerre aurait été vraisemblablement prévenue ou évitée. Nous avons essayé de reconstruire, et le ciment que nous avons employé de notre mieux, eh bien, c'est précisément l'esprit démocratique. C'est précisément l'esprit de solidarité pacifique entre les peuples. Il est conforme à l'esprit de la démocratie pacifique de rechercher loyalement la paix, même avec les États qui excluent la démocratie ou qui la condamnent.
Robert Franck, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes là moins de 3 ans avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et nous entendons Léon Blum dans une réflexion sur la relation entre la démocratie et les régimes autoritaires ou totalitaires, qui n'est pas, me semble-t-il, sans permettre d'évoquer quelques échos aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Et je suis assez impressionné par les propos de Léon Blum. On voit bien que Léon Blum a bien lu Emmanuel Kant, hein, et c'est sur la paix perpétuelle de 1795. Kant disant que si les régimes républicains aient préféré le mot république au mot démocratie se généraliser, il n'y aurait pas la guerre, puisque c'est les citoyens qui décideraient de cette guerre. Ils ne le feraient évidemment, ils ne sacrifieraient leurs impôts et leur sang que s'il y avait vraiment une guerre juste de défense et non pas d'attaque. Ça peut aussi évoquer Fukuyama beaucoup plus tard.
Dans les années 1990, c'est le professeur américain qui a annoncé que le monde allait tranquillement, doucement, avec peut-être quelques malheureux événements annexes, vers une démocratie universelle, après la chute du mur.
Oui, alors là, Léon Blum ne parle pas trop de cette, extension de l'économie de marché, mais il parle de cette extension souhaitable de la démocratie pour qu'il n'y ait plus de guerre. Les démocraties ne se font pas la guerre, même si elles font la guerre, elles ne se font pas la guerre entre elles. Ce qui est intéressant aussi, c'est que au fond, il est en train de dire il faut tout faire pour la paix. Et il dit ça donc en octobre 36. Quelques semaines plus tôt, le gouvernement de Léon Blum a décidé un plan de réarmement massif. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, il veut la paix, et ce réarmement est nécessaire au cas de guerre, au cas où la négociation avec les États totalitaires ne marcherait pas, mais aussi, après tout, ce réarmement peut être dissuasif. Ça pourrait impressionner l'Allemagne. Bon, évidemment, c'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas, il fait attention à jouer à la fois sur la paix, sur la négociation de paix, sur l'idée de paix, et au cas où, la préparation de la guerre.
Préparer la guerre, cela veut dire entraîner le peuple tout entier à des sacrifices et à des labeurs plus grands.
Et en même temps, il parle de l'avant-guerre de 14. Et au fond, ils disent, s'il y avait eu des démocraties partout, il n'y aurait pas eu la guerre. On peut discuter de ça, hein. Mais c'est vrai que dans une certaine manière, même si tout le monde est un peu responsable de l'éclatement de la guerre en 14, la Russie, empire autocratique fragile, l'Autriche-Hongrie, un empire fragile, non démocratique, c'est cette fragilité qui a été un peu le début de l'enclenchement et de l'engrenage de 1914.
Dans ce discours, il me semble qu'on trouve aussi, Robert Franck, ce mélange de peur et d'espoir, cette incertitude qui caractérise en général ces avant-guerres dont nous allons parler ce matin.
Tout à fait. Ce qui caractérise l'avant-guerre, c'est ce mélange d'incertitude qui conduit à l'inquiétude. Et justement, ce mélange de temps ordinaire, parce qu'il n'y a pas la guerre, la vie continue, on ne voit pas pourquoi on ferait des sacrifices, et en même temps, cette angoisse de la guerre qui vient, donc peut-être qu'il faut songer à l'idée qu'on passe d'un temps ordinaire à un temps extraordinaire. Donc on est entre le temps ordinaire et le temps extraordinaire, et ça nous rappelle évidemment l'actualité, parce que nous sommes un peu dans cette situation. On ne sait pas ce qui va arriver, mais bon, ce qui est peut-être à souligner, c'est qu'il y a des avant-guerres qui, heureusement, ne débouchent pas forcément sur la guerre.
C'est pourquoi vous souhaitez que nous évoquions aussi le moment de la guerre froide, du début des années 50, où un grand nombre de gens étaient persuadés qu'on allait vers une nouvelle guerre mondiale et où celle-ci, heureusement, n'est pas survenue.
Il s'agit effectivement des années 50-53. On se demande si la guerre de Corée n'est pas un peu comme les guerres balkaniques d'avant 1914, comme la guerre d'Espagne dans les années 30, la guerre locale qui pourrait dégénérer en guerre mondiale. Et cette avant-guerre-là, 50-53, heureusement, n'a pas débouché sur une guerre chaude. La guerre est restée froide.
Vous posez donc directement la question de l'engrenage qui conduit les peuples, à partir de guerres qui peuvent apparaître secondaires, vers un embrasement généralisé. C'est un premier aspect des choses que nous allons examiner. Puis j'annonce un peu notre table des matières. Je crois qu'il faudra ensuite que nous évoquions l'ambiance émotionnelle des avant-guerres, que nous parlions des actions préventives ou qui ont préparé les choses du côté de la diplomatie, du réarmement, des efforts demandés. Puis enfin, bien sûr, car cela aussi est actuel, les tensions sociales qui sont inhérentes à ces périodes, avec le coût financiers qu'elles exigent. Commençons par évoquer ce qu'on a souvent décrit comme un engrenage inévitable, qui a été vécu comme tel par les contemporains.
L'engrenage le plus typique, c'est effectivement celui de l'avant 14. On parle effectivement d'un engrenage diplomatique, d'un engrenage d'alliance. Lorsque l'Autriche déclare la guerre à la Serbie, la Russie, qui protège la Serbie, en veut à l'Autriche et mobilise. L'Allemagne veut protéger l'Autriche contre la Russie. La France, alliée de la Russie, donc est dans l'engrenage. Et la Grande-Bretagne va s'y mettre aussi le 4 août, lorsque l'Allemagne envahit la Belgique et viole la neutralité de la Belgique. Donc un engrenage diplomatique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'a pas été vécu comme ça. Je veux dire, par là, qu'il y a eu toujours ce mélange d'angoisse. Ah oui, il y a un engrenage. Et aussi, l'opinion peut être rassurée parce que telle ou telle crise, 1905, 1911, finalement, elle est résolue. Donc on a toujours l'espoir que le temps ordinaire va subsister et qu'on ne passe pas à ce temps exceptionnel de guerre. Et c'est vrai qu'après la guerre, il y a eu beaucoup de livres, je crois 25 000 ouvrages et articles entre 1919 et 1991, avant le centenaire de 14, pour savoir qui était responsable. Donc cette querelle sur la responsabilité de la guerre et de cet engrenage est très importante. Mais on ne va pas entrer dans ce détail. Bien sûr, pendant longtemps, le traité de Versailles l'a dit, c'était l'Allemagne qui est responsable de la guerre. Maintenant, on est beaucoup plus dans l'idée que cette responsabilité est partagée.
Avec cet élément souvent très important dans le déclenchement des guerres, c'est-à-dire un sentiment qu'on est entouré de menaces.
C'est très important ce que vous dites, parce que plus qu'un engrenage diplomatique, il faudrait parler d'engrenage d'émotion, de peur. Et c'est Gerd Krumeich, l'historien allemand, qui a bien insisté sur ces émotions. Au fond, personne ne veut la guerre. Tout le monde a une attitude défensive. Mais chaque puissance est persuadée que l'autre est offensive. Et dans la mesure où l'autre est offensive, il faut donc la contrer, quitte à prendre des risques conduire à l'autre puissance de croire que c'est la première puissance qui est offensive. Il y a cette crainte qui effectivement anime toutes les puissances. L'Autriche a peur de la Serbie dans la mesure où celle-ci, après l'attentat de Sarajevo, peut amener l'Autriche à éclater. La Russie a peur, si elle n'intervient pas, que l'Autriche et l'Allemagne deviennent prépondérantes. L'Allemagne a peur de laisser l'Autriche seule face à la Russie, donc elle pense à intervenir parce que l'Allemagne a particulièrement peur de la Russie. Et l'Allemagne sans doute a peut-être une responsabilité supplémentaire, dit Gerd Krumeich, même s'il ne voulait pas la guerre. Elle a choisi le moment, elle pense que si la guerre est inévitable, et elle pense que la guerre est inévitable, c'est maintenant qu'il faut la faire et pas plus tard, parce que le réarmement russe risque d'être extrêmement dangereux pour l'Allemagne. Et du coup, la France veut protéger la Russie. Donc il y a vraiment un engrenage d'émotions. Tout le monde a peur pour sa propre sécurité. Il faut ajouter que tout le monde est persuadé qu'à Noël, tout sera fini, que la guerre sera courte. Et évidemment, ne faisons pas d'anachronisme cognitif. Il est évident que les gens de l'époque ne savaient pas que la guerre durerait jusqu'en 1918 et qu'elle ferait entre 9 et 10 millions de morts en Europe.
Cette évidence appelle parfois la nécessité de la rappeler. Si on passe à 1939, en contraste, il ne s'agit pas d'un engrenage d'alliance défensive, mais d'un côté, un programme d'expansion Hitler et de l'autre, la recherche des meilleurs moyens de la contenir. Et là, on se rapproche peut-être plutôt de la situation actuelle avec le rôle de Vladimir Poutine.
Oui, c'est moins un engrenage, effectivement. C'est la volonté du côté des démocraties d'arrêter Hitler. Alors, d'abord, il y a la volonté de Hitler, hein, une volonté d'expansion. Et un Hitler qui cache son jeu, hein, qui ne dit pas tout de suite qu'il veut l'expansion à travers toute l'Europe. Au départ, il est habile. Il montre simplement qu'il veut mettre fin à l'ordre du traité de Versailles, que l'Allemagne revienne à une souveraineté, qu'elle ait le droit d'avoir un service militaire obligatoire, et elle le fait en 35, qu'elle ait le droit de militariser la rive gauche du Rhin, après tout, la rive gauche du Rhin appartient à l'Allemagne, qu'elle a le droit d'annexer l'Autriche parce que ce sont des Allemands et que ces Autrichiens veulent être annexés à l'Allemagne, bon ça peut se discuter, et qu'elle a le droit de mettre la main sur les Allemands de Tchécoslovaquie, les Sudètes. Et du côté donc des démocraties, il y a cette inquiétude, mais une inquiétude avec l'idée qu'il ne faut pas rentrer dans l'engrenage de 14. Il faut donc tout faire pour éviter cet engrenage et pourquoi pas, ça va jusqu'à céder à Hitler, et c'est ce qui va se passer, bien sûr, à la conférence de Munich le 30 septembre 1938.
Puisque, à bon escient, Robert Funk, vous souhaitez qu'on évoque aussi l'avant-guerre qui n'a pas eu lieu, je veux dire celle des années 1950, on retourne à un sentiment d'engrenage fatal.
Oui, Il y a un grenage fatal et en même temps il y a la volonté ou la peur de l'expansion soviétique et de l'expansion de Staline. La femme d'Albert Camus, Francine Camus, qui se confie à Simone de Beauvoir et qui est persuadée à partir de la guerre de Corée de 1950 qu'on va vers une troisième guerre mondiale. Son raisonnement est le suivant, et beaucoup le disent, ce n'est qu'une diversion. Staline a lancé les Coréens du Nord contre la Corée du Sud pour détourner l'attention et cela va lui permettre d'attaquer l'Europe. Donc Francine Camus et d'autres ont peur de cette invasion soviétique. Alors, ça ne va peut-être pas aussi loin qu'une psychose, mais bien entendu. Mais il y a effectivement toute cette inquiétude pour la guerre de Corée de 1950-1953. Et donc la peur à la fois d'un dictateur qui peut avoir des ambitions et aussi la peur d'un engrenage à partir du moment où l'URSS commencerait à attaquer l'Ouest.
Le philosophe Gabriel Marcel, dans les années 50, avait publié, fait jouer une pièce qui s'appelait « Rome n'est plus dans Rome », qui incarne bien cette peur d'une certaine bourgeoisie française. Toute la pièce est organisée autour de l'incertitude d'une famille. Doit-on ou non partir en Amérique latine puisque l'Europe va être envahie par Staline ?
Oui, effectivement, c'est donc assez typique de cette peur. Et là, effectivement, on a un avant-guerre qui n'a pas débouché sur une guerre chaude. Donc tout le monde a été à peu près rassuré en 53, à la fois par la mort de Staline, d'une part, mais aussi par un changement de stratégie. Et c'est vrai que la grande différence, évidemment, après 1945, c'est le fait nucléaire.
Alors revenons, Robert Franck, à cette question des ambiances de l'avant-guerre et en particulier de 1914. Rétrospectivement, le président de la République, Raymond Poincaré, évoque l'engrenage, l'idée qu'il a de cette origine de la guerre dans un discours prononcé le 14 juillet 1915 à l'hôtel des Invalides, moins d'un an après le début de la Première Guerre mondiale. Raymond Poincaré, juillet 1915.
Quoi de plus ? L'esprit de domination est venu menacer la liberté des peuples. Depuis de longues années, notre démocratie laborieuse se plaisait aux travaux de la paix. Malgré des provocations répétées, on était resté volontairement silencieuse et impassible. Lorsque les premiers nuages s'étaient amoncelés sur les Balkans, elle avait tout fait pour conjurer l'orage menaçant. Lorsqu'en dépit de ses efforts inlassables, la guerre avait éclaté en Orient, elle avait tâché de localiser et d'éteindre l'incendie qui s'était déclaré. Lorsqu'enfin le calme s'était rétabli, elle s'était aussitôt prêtée à de nouvelles négociations pour étouffer entre elle et l'Allemagne les dernières causes latentes de difficultés et de conflits. Et c'est au lendemain du jour, où venait d'être signé un accord franco-allemand qui réglait à la satisfaction des deux pays les questions orientales. C'est à un moment où l'Europe rassurée commençait à reprendre haleine qu'un coup de tonnerre imprévu a fait trembler les colonnes du monde. L'histoire dira la suite. Elle dira comment l'Autriche, malgré les avertissements réitérés de l'Italie, a prémédité une attaque contre la Serbie. Elle dira comment cette petite et vaillante nation a, sur les conseils de la Russie et de la France, répondu dans les termes les plus conciliants à un ultimatum injurieux. Elle dira comment, depuis le début de cette crise redoutable, le gouvernement de la République n'a cessé d'agir auprès de tous et avec une volonté tenace dans le sens de la paix.
Donc, affirmation par le président de la République que la France n'est pour rien dans le début de la guerre. Cela conduit néanmoins à s'interroger sur ce qu'a pu être le nationalisme français. Robert Franck, avant 1914, un certain nombre de gens ont pu prévoir, attendre, éventuellement espérer même cette guerre. On ne peut qu'être frappé par la phrase fameuse du général de Gaulle dans ses mémoires. « Je dois dire que ma prime jeunesse imaginait sans horreur et magnifiait à l'avance cette aventure inconnue ».
Il est évident qu'il y a cette ambiance nationaliste. Il est évident que beaucoup de jeunes sont exaltés par l'idée qu'il faut non seulement défendre la nation, mais après tout se réaliser dans la guerre. Je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer cette ambiance nationaliste, même si elle existait. Elle n'a concernait qu'une minorité. Et Jean-Jacques Becker l'a bien montré dans sa thèse sur les Français et le départ à la guerre en 1914.
Un ouvrage essentiel, fondamental, qui a renversé beaucoup d'idées reçues quand on répétait que les Français étaient partis la fleur au fusil, avec gaieté. Non.
Effectivement, ils sont partis, dit-il, avec une résolution tranquille, mais qui n'avait rien à voir avec la fleur au fusil et l'enthousiasme. On a un nationalisme minoritaire, belliqueux, chauvin, exaltant la guerre, mais qui n'est pas représentatif de l'opinion. En revanche, il y a un nationalisme qui est dans un autre sens, et à la limite, il faudrait peut-être bannir le mot nationalisme, il y a le patriotisme, hein, qui n'est pas du tout la même chose. Il ne faut pas oublier Romain Gary, alors là, il s'agit de 1945, c'est après la guerre. Dans son roman « Éducation européenne », il prête à un de ses personnages résistants un mot magnifique. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Et il savait de quoi il parle, ce résistant personnage fictif de Romain Gary, puisque effectivement, c'est quoi cette guerre larvée civile entre Français entre 40 et 44, c'est entre les nationalistes, Vichy, les collaborateurs qui n'ont rien à faire de la patrie, et les patriotes, les résistants. Donc si on revient à l'avant 14, on peut effectivement voir qu'il y a beaucoup plus un réflexe mélangé, un esprit de paix, pacifique chez les Français, mêlé à un patriotisme. C'est-à-dire que si on nous attaque, nous allons nous défendre. Et toute la question, cet engrenage d'émotions dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, chacun est persuadé d'être dans son droit, chacun est persuadé que c'est l'autre qui est l'offenseur ou l'offensif, et qu'il faut donc se défendre. On voit ça en France, Gerd Krumeich a montré que dans une certaine mesure, en Allemagne, il y avait à peu près ce même type de sentiment, peut-être pas dans l'état-major allemand, mais dans une grande partie de l'opinion.
Il y a une partie des publicistes de l'époque qui sont efforcés d'expliquer que la nouvelle génération était belliqueuse. Et nous savons que ce n'est pas vrai. Je pense en particulier à la fameuse enquête d'Agathon, qui est en fait, il y a deux enquêtes. Ce sont deux intellectuels de l'époque, Alfred de Tarde et Henri Massis, qui d'ailleurs finira à Vichy, qui ont fait deux enquêtes successives auprès de la jeunesse des écoles, comme on disait, de l'université, qui ont expliqué qu'ils étaient vraiment bellicistes. Et nous savons qu'en fait, cette enquête est largement biaisée.
Oui, Henri Massis et Alfred de Tarde, sous le pseudonyme d'Agathon, font cette enquête, les jeunes gens d'aujourd'hui. Et effectivement, ce qu'ils disent n'est pas faux, mais ça concerne vraiment une petite minorité de jeunes. À côté de ce patriotisme, il faut distinguer le nationalisme militant, belliqueux, qui concerne une minorité, et ce nationalisme diffus qui ressemble plus à du patriotisme. On peut dire que de l'autre côté, on a la même chose. C'est-à-dire qu'on a des pacifistes militants, pacifistes intégraux, qui veulent la paix à tout prix, et des pacifistes qui ont simplement l'esprit de paix, mais qui ne sont pas du tout antipatriotiques et qui ont un esprit de défense. Et dans une grande mesure, et là vous le savez bien parce que vous avez écrit sur ce sujet, Jaurès intègre pas mal ces sentiments mêlés. Il faut tout faire pour défendre la paix, mais évidemment, la défense nationale est importante. Et s'il a écrit sur l'armée et la nation, c'est qu'il a réfléchi à ces questions stratégiques. Donc ce n'est pas un pacifiste bêlant, même s'il est tout à fait imprégné par l'esprit de paix. Et dans ce sens, on peut faire le parallèle entre Jaurès avant 14 et Léon Blum à la fin des années 30.
Le grand livre auquel vous faites allusion s'appelait « L'armée nouvelle », effectivement, qui est antérieur de quelques années à la guerre mondiale. Et puisque vous évoquez au fond ces quatre Frances, ces quatre sensibilités, en notant que le patriotisme nationaliste s'enracine bien sûr largement dans l'éducation primaire et secondaire, puisque vous parlez de cela, je voudrais vous faire entendre un texte de Charles Péguy, un texte de 1913 dans les cahiers de la quinzaine, lu ici par Alain Cuny dans l'analyse spectrale de l'Occident de Pierre Cipriot, qui a été diffusé sur France Culture le 6 mai 1967. Péguy qui s'en prend à Jaurès avec une violence qui surprendra peut-être.
Je suis un bon républicain. Je suis un vieux révolutionnaire. En temps de guerre, il n'y a plus qu'une politique, et c'est la politique de la Convention nationale. Mais il ne faut pas se dissimuler que la politique de la Convention nationale, c'est Jaurès dans une charrette et un roulement de tambour pour couvrir cette grande voie. En temps de paix, je suis un bon vivant comme tout le monde. Mais en temps de guerre, il faut bien penser que ce sera sérieux. Et nous ne savons pas si nous serons heureux, mais nous savons que nous ne serons pas petits. En temps de paix, c'est entendu, ça va bien. Mais en temps de guerre, en République, il n'y a plus que la politique de la Convention nationale contre la politique de l'Assemblée de Bordeaux. Je suis pour la Commune de Paris, pour l'une et l'autre commune, contre la paix. Celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend. Nous demanderons à Mathiez ce qui se passait sous la Convention nationale et comment on traitait les ennemis de l'intérieur. La politique de la Convention nationale était de frapper les têtes, les mauvaises têtes. Les régimes qui ne commencent pas par mettre au pas les ennemis de l'intérieur, c'est-à-dire, pour les nommer, quelques misérables intellectuels et politiciens, finissent toujours par massacrer le peuple. Les régimes qui ne commencent pas par annuler les mauvais bergers finissent toujours par massacrer le troupeau même. En temps de guerre, il n'y a qu'un régime et c'est le régime jacobin. Louis XVI fut déplacé à bon droit, puisque pour cette guerre qui venait, qui était commencée, il était déplacé. Il était remplacé par de plus jacobins, par de plus rois, par de plus anciens régimes, par de plus riches lieux que lui. Et cet autre gros homme qu'est Jaurès ne serait peut-être point humilié de ce précédent historique et d'être déplacé dans les mêmes formes de cette royauté de servitude qu'il exerce aujourd'hui sur quelques peuples abusés et que ce fut le tambour de Santerre qui couvrit sa grande voix. En temps de guerre, il n'y a plus que l'État et c'est « Vive la nation ».
Je rappelle, Robert Franck, que Mathiez était à l'époque le grand spécialiste de l'histoire de la Révolution française. Comment réagissez-vous à ce texte de Péguy par rapport à la problématique que nous posions tout à l'heure sur ces quatre Frances
qui c'est un texte extraordinaire et terrifiant à la fois. On voit bien sa problématique qui fait la différence entre l'état de paix et l'état de guerre. Et là, c'est tout à fait dans notre problématique. Mais du coup, il a ses références historiques. La Révolution française, comme vous l'avez dit, avec la référence à Mathiez, la référence, bien sûr, à la patrie en danger, 1792, la référence à la Commune de Paris qui ne se rend pas. Et comment Péguy, ancien socialiste, ancien ami de Jaurès, au fond, était en train d'accuser Jaurès d'être une sorte de Louis XVI, une sorte de traître qui mérite la charrette de la même façon que tous les traîtres. Et là, effectivement, on a le virage de Péguy. Comment, en tant que socialiste au départ, il devient au fond tout à fait nationaliste et comment dirais-je, un nationalisme assez belliqueux, quitte à faire des contresens sur ce que pensait Jaurès.
On peut rappeler que Péguy sera tué au tout début de la guerre en août 1914, donc il paiera lui-même le prix terrible du sang. Venons-en, Robert Franck, pour comparaison à l'ambiance de l'époque d'avant 1939. Est-ce qu'on retrouve ces quatre Frances, qui ne sont pas évidemment opposées les unes aux autres, violemment, mais qui se définissent très clairement, la gauche étant divisée, la droite aussi?
La division entre quatre Frances est encore plus nette dans les années 30 et la fin des années 30 que dans l'avant 14. Et en même temps, cette ambiance est complètement ambivalente. C'est-à-dire que d'un côté, je l'ai dit, le Front populaire réarme, mais d'un autre côté, ce même Front populaire ne veut pas intervenir dans la guerre d'Espagne, parce que ça risque de faire l'engrenage, de produire l'engrenage qu'on veut éviter, tel que l'engrenage a existé avant 1914. Faut en plus se rappeler que l'ambiance est aussi déterminée par la façon dont la guerre d'Espagne se déploie. On est complètement obsédé par les bombardements des villes. Guernica, on se rappelle évidemment le tableau de Picasso, et ça n'existait pas à ce point pendant la Première Guerre mondiale. Donc il y a vraiment une ambiance qui montre que la guerre est horrible, et ce sentiment d'horreur est nouveau.
Avec toujours cette guerre périphérique, les Balkans avant 14, la guerre d'Espagne avant 39, aujourd'hui l'Ukraine.
Voilà. À chaque fois, est-ce que c'est le prélude à cette guerre générale et
générale ? La Corée en 1951.
Donc ce sentiment d'horreur montre un pacifisme profond qui n'enlève pas le patriotisme.
La gauche est donc divisée, la paix à tout prix, la droite aussi. Il y a une droite qui va être anti-munichoise et l'autre qui va être au contraire favorable à un rapprochement avec l'Allemagne, ou en tout cas avec une politique de faiblesse.
La gauche est tiraillée entre le pacifisme qu'elle a depuis les années 20, depuis l'après-première guerre mondiale, l'après-grande guerre, et l'antifascisme, la conscience du danger fasciste italien et encore plus du nazisme allemand. De l'autre côté, à droite, il y a un attachement à l'ancien nationalisme, à ce sentiment anti-allemand, voyant une Allemagne éternelle capable d'attaquer la France, mais en même temps l'anticommunisme, la peur du communisme, la peur du Front populaire. Le Front populaire, c'est la guerre. Et le Front populaire va nous conduire à la guerre, et après tout, Hitler n'est-il pas le meilleur rempart contre Hitler ? Donc la droite aussi est divisée, et d'où les quatre Frances auxquelles vous faisiez allusion.
Il est notable qu'à l'intérieur du patronat, des forces dirigeantes de l'économie, on trouve cette opposition entre ceux qui, effectivement, ont tellement peur de Staline, du communisme, qu'ils sont prêts à avoir toutes les indulgences pour Mussolini et Hitler, et d'autres. J'ai regardé de près le cas du maître de forge François de Vindel, qui mettent évidemment en priorité la nécessité de résister à l'Allemagne, ennemi éternel. En 1936, le pacifisme, on n'est pas encore au moment de Munich, deux ans plus tard, le pacifisme de gauche s'exprime très fortement. Par exemple, dans la chanson que je vais vous faire entendre, qui s'appelait « Arrêtez la guerre » par Guy Sella en 1936. Après, vous nous direz, si vous voulez bien, Robert Franck, si cette chanson vous paraît refléter un sentiment à l'époque largement répandu, notamment dans la classe ouvrière.
Il est un mal sur notre terre qui décime le genre humain. Il fait trembler les prolétaires, chassons-le de notre chemin. Le chant d'honneur est un blasphème, c'est l'orgueil des égorgeurs. Les travailleurs ont un emblème, ils sont tous frères dans leur cœur. Arrêtez, arrêtez la guerre, le fléau le plus meurtrier, rempli d'horreur et de misère, c'est la famine dans nos foyers. Écrasons cette face hideuse, que nos poings soient toujours levés, et que la classe laborieuse travaille en pleine liberté. Dès à présent dans nos écoles, remplaçons tous les chants guerriers. La paix doit être le symbole des enfants de nos ouvriers. La charité sur notre terre, c'est de se tendre la main. C'est en détruisant les frontières qu'on sauvera le genre humain. Arrêtez, arrêtez la guerre, le fléau le plus meurtrier, rempli d'horreur et de misère, c'est la famine dans nos foyers. Écrasons cette face hideuse, que nos poings soient toujours levés, et que la classe laborieuse travaille en pleine liberté.
Voilà Robert Franck sur un rythme d'ailleurs de marche militaire, l'affirmation d'un pacifisme absolu. Et pourtant, les choses vont évoluer ensuite, avec au moment des années suivantes, à mesure que Hitler affirmera sa volonté de conquête.
Oui, cette chanson est très significative de l'ambiance des années, du début des années 30 jusqu'en 1936. Effectivement, là, l'appel à la guerre, c'est qu'il y a plus horrible, en particulier cette classe ouvrière qui sera sacrifiée. Et cette ambiance de 36, c'est aussi l'été 36, le Front populaire, les congés payés. Donc, on ne pense pas du tout à la guerre. Et je le disais tout à l'heure. Et pourtant, au même moment, le Front populaire lance le réarmement. Et ce réarmement va être relativement réussi sur le plan financier. Il y aura un décalage, on verra, par rapport aux résultats. Mais c'est vrai, il y a une chose que le Front populaire ne fait pas, c'est peut-être réarmer les esprits. Il ne veut peut-être pas tout de suite casser cette ambiance de paix. Cela étant, le climat va s'assombrir, et une chanson comme celle de Sella de 1936, on n'entendra pas tellement par la suite, parce qu'effectivement, il y a la conscience de cette montée des dangers.
C'est le temps des premiers sondages qui nous viennent des États-Unis, les fameux Gallup, et ils sont très révélateurs de la complexité de l'opinion publique dans cette avant-guerre d'avant 1939, dans les années 37 et surtout 38 au moment de la conférence de Munich.
Ces sondages sont extrêmement intéressants. Effectivement, à la conférence de Munich, le 30 septembre 1938, Daladier, Chamberlain, face à Hitler et Mussolini, accordent à Hitler le pays des Sudètes. Donc ce sont les Allemands de Tchécoslovaquie. Pour Chamberlain, c'est la paix pour notre époque.
La paix pour notre temps.
It's peace for our time. Et là, il se fait des illusions. Et on a parlé d'une capitulation diplomatique déshonorante. Daladier est aussi conscient, au contraire, que la France est déshonorée, Elle n'a pas appuyé son allié tchécoslovaque.
La fameuse scène où il revient au Bourget, une foule immense l'acclame et il dit « Allez con ».
Allez con. Et c'est sûr que ce « Allez con » est plus lucide que le « It's peace for time » de Chamberlain. Donc vous voyez, ce sont deux Munichois, mais qui ne sont pas du tout Munichois pour la même raison. Ce que je veux dire par là, c'est que Chamberlain pense que c'est la paix pour eux toujours. Daladier veut gagner du temps et précisément, on trouve ça dans les sondages. Le sondage, et c'est le premier sondage de l'IFOP, qui demande aux sondés, est-ce que vous approuvez les accords de Munich ?
Octobre 38,
et 57% approuvent cela. 37% désapprouvent, ce qui est beaucoup, parce que, mais cela dit, ils sont en minorité.
Mais un autre aspect du sondage est également éclairant.
Effectivement, 70% pensent, malgré cette peur d'une destruction civilisationnelle, si guerre il y a, pensent que la France et l'Angleterre doivent désormais résister à toute nouvelle exigence. 70%. 17% seulement disent qu'il ne faut pas arrêter Hitler. Et là, on est tout à fait dans l'esprit de Daladier, si j'ose dire. C'est-à-dire que, oui, on est munichois, la paix, c'est extraordinaire, et il y a vraiment un soulagement. On pense évidemment à Léon Blum, qui en fait, est anti-munichois, mais qui est partagé entre la honte, et la honte, c'est important, et le lâche soulagement. Il votera, d'ailleurs, les accords de Munich, mais au congrès de Montrouge, quelques semaines plus tard, il l'emportera sur Paul Fort, qui est pacifiste, et il fera comprendre qu'il faut désormais une politique de fermeté. Les Français sont dans cette ligne. C'est très bien Munich, mais il faut arrêter Hitler si jamais il va plus loin.
Julien Green écrit à ce moment-là dans son journal « La paix est peut-être sauvée, mais c'est parce que nous avons eu peur de Hitler et de sa grosse voix ».
Effectivement, là, on a effectivement Julien Green qui montre par là qu'il est anti-munichois. Jean Giono, au contraire, dit « Je n'ai honte d'aucune paix, j'ai honte de toutes les guerres ». On voit que les intellectuels sont tout à fait partagés.
Au moment où la guerre éclate, il y a un fameux tract pour la paix immédiate, absolument pacifiste, à tout prix, qui est signé par Giono, par Alain, par Michel Alexandre, etc.
Tout à fait. Et à cela répondent des gens comme Romain Rolland, qui était pacifiste avant 1914. C'est vrai que dans les années 30, il devient très proche du Parti communiste. Il est tout à fait anti-munichois. Donc on voit des évolutions extrêmement, extrêmement intéressantes.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney.
Alors je voudrais que nous en venions maintenant, Robert Franck, à la manière dont avant 14 et avant 39, les gouvernements, le pays a pu réagir à la menace. Préparation, effort, sacrifice.
Alors effectivement, ces préparations font partie, d'une certaine manière, avant 14, de l'engrenage. Hein, une vraie course aux armements. Le réarmement est surtout naval au départ, surtout pour l'Allemagne et la Grande-Bretagne, dès les années 1890, quelques années plus tard pour la France. Et le réarmement de l'armée de terre est peut-être plus tardif, mais il n'en est pas moins important.
Des chiffres qui appellent la comparaison avec aujourd'hui et ce qu'on annonce. On voit que l'Allemagne, nous dites-vous, augmente son budget militaire entre 1905 et 14 de 250%.
Tout à fait.
Et la France de 50%, c'est assez vertigineux. 4,6% du PIB en France en 1913. Et là, nous atteignons de justesse les 2%.
Nous atteignons les 2% et les questions de passer à 3,5%. Ce qu'il faut savoir, c'est que les armements coûtent de plus en plus cher. Ce qui fait que ces 4,6% du PIB en 1913, ça sera le double en 1939. Parce que les armements coûtent plus cher. Et en 1953, ça sera 9% si on ne compte pas la guerre d'Indochine qui est en cours. Et même 12,6% si on compte l'Indochine. Donc à chaque avant-guerre, le réarmement coûte de plus en plus cher. Mais pour l'avant 14, c'est aussi la course aux effectifs. Et on sait que l'Allemagne, démographiquement, est beaucoup plus puissante que la France avant 1914. Et la loi de 2 ans de 1905, on pense qu'elle ne suffit pas. La loi de 1905 prévoit un service militaire à 2 ans. Et on pense en 1913 que c'est insuffisant, d'où le passage du service militaire à 3 ans, qui est voté en juillet 1913, et qui est une parade, si vous voulez, l'idée que la France doit se préparer à la guerre, et ça c'est très net en 1913 par cette loi des 3 ans.
Et qui divise le pays très fortement, et aujourd'hui on entend certaines voix encore très minoritaires qui évoquent le retour à un service militaire généralisé, même en France.
Le débat est une continuité dans tout le XXe siècle sur le service militaire et sur la durée de ce service militaire.
On retrouve la question de la gestion du temps. À partir du moment où les événements se précipitent, combien de durée faut-il pour qu'on puisse se réarmer ?
Cette gestion du temps est très difficile. Si on prend l'exemple des années 30 et du réarmement lancé par le Front Populaire, il est lancé en 1936, mais il y a un décalage de 2 ans. Les résultats industriels ne viennent qu'à la fin 1938 et au début 1939. À partir de là, les choses vont très vite. Le taux de croissance de l'industrie aéronautique française est égal ou supérieur au taux de croissance de l'industrie allemande, mais à partir du printemps 1939, quelques mois avant la guerre. Donc il y a ce décalage et cette gestion du temps est tout à fait difficile. Décalage aussi entre le réarmement matériel et le réarmement des esprits. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Front Populaire a peur de faire peur, et à faire peur en partie aux capitaux. Les capitaux déjà ont fui la France du fait de l'avènement du Front Populaire qui faisait peur en lui-même. Si en plus le Front Populaire réarme et que ça se sait trop, eh bien ce sera l'idée que le Front Populaire c'est la guerre, que le Front Populaire veut faire la guerre à Hitler, qu'il est belliciste, qui évidemment il n'est pas, et ça pourrait donc aggraver cette fuite des capitaux. Donc là aussi il y a un décalage.
Pour faire écho, je vais vous proposer un extrait d'une allocution. On est en avril 51, il s'agit du troisième cas, la guerre qui n'a pas eu lieu, mais qui a été redoutée tant au début des années 50. Une allocution du ministre de la Défense nationale, c'est un socialiste, Jules Moc, qui a été un collaborateur de Blum d'ailleurs au moment du Front Populaire. Cette allocution prononcée le 17 avril 1951 est, du point de vue qui nous occupe, me semble-t-il, vous allez voir, assez clair.
Pas un instant, la France n'a hésité à assumer ses charges nouvelles. Dès le 5 août 1950, le gouvernement français s'engageait à équiper une armée moderne, comportant à la fin de 1951 10 divisions et à la fin de 1953 20 divisions, auxquelles s'en ajouteront d'autres mobilisées en 30 jours. Un tel effort est pour la France une nécessité. Une armée riche en tradition n'a confiance en elle que si elle reçoit une partie au moins de son matériel de choc de ses usines nationales. Mais si sa capacité industrielle permet à la France d'équiper son armée du point de vue technique, l'insuffisance de ses moyens financiers, épuisés par 2 reconstructions en une génération, l'oblige à accepter l'aide américaine. Grâce à la loi américaine, la France reçoit d'Amérique des fournitures militaires en quantité massive. Au 1er avril de cette année, plus de 150 000 tonnes d'armement. Les Françaises et les Français savent que ces contributions sont prélevées sur les ressources, les impôts et la production des hommes et des femmes des États-Unis. J'exprime au président Truman, au général Marshall, la reconnaissance des officiers et soldats français. Ainsi, la France témoigne de sa pleine solidarité avec l'Amérique dans leur commune volonté de faire reculer la menace de guerre en rendant vaine l'agression.
L'effort est clair, Robert Franck. La volonté aussi de l'alliance avec les États-Unis d'Amérique qui apporte de l'argent dont nous ne disposons pas, mais à condition que la France elle-même marque tout de même sa volonté des dépenses indispensables.
C'est ce que explique Jules Moc. Il faut un effort de réarmement. Pourquoi ? La guerre de Corée commence en juin 1950. C'est donc le moment où la guerre froide se mondialise, pas seulement l'Europe, mais aussi l'Asie. Et les États-Unis demandent aux Européens de réarmer. Et même demandent à l'Allemagne de l'Ouest de réarmer, ce qui posera problème.
Du côté français.
Du côté français, mais ça c'est un autre sujet. Et en même temps, l'Amérique demande aux Européens de l'Ouest de se réarmer, mais accepte d'aider ces Européens financièrement. C'est-à-dire que, au plan Marshall, qui a servi à la reconstruction et à la modernisation civile, il ajoute une aide militaire, le Mutual Defense Act, qui permet cette aide. Et la France va recevoir autant d'argent que pour le plan Marshall, donc ce n'est pas du tout négligeable. Et ce réarmement va être effectif, puisqu'il va représenter à peu près 9% du PIB français. C'est le record français hors guerre mondiale. 4,6% en 14, en 13, 8 et quelques pourcents en 39, 9% en 53. Ce réarmement en armes conventionnelles va s'arrêter après 53 parce que il y a 2 faits différents dans cette avant-guerre. L'Amérique qui aide, ce qui n'était pas le cas à l'avant 14, ce qui n'était évidemment pas le cas avant 39, et l'autre fait nouveau, c'est le fait nucléaire. Et effectivement, à partir de 1953, les États-Unis veulent passer aux représailles massives. C'est-à-dire que si jamais un char soviétique entre quelque part en Occident, l'URSS sera vitrifiée. Et les Alliés peuvent se permettre cela parce qu'ils ont encore la supériorité de l'arme atomique. Ils l'ont depuis 45, l'URSS se monte depuis 1949. Donc ça permet de faire des économies dans les armes conventionnelles, d'où la fin du réarmement français en 1953, et d'où aussi une certaine détente, puisque la mort de Staline y est pour quelque chose, on entre dans une nouvelle ère.
Et les contemporains et ceux qui ont suivi ont largement éprouvé une sorte d'évidence, c'est-à-dire que la bombe atomique a protégé le monde contre une troisième guerre mondiale. C'est l'élément nouveau.
C'est l'élément nouveau parce que, à partir du début des années 50, on réfléchit à l'arme atomique comme une arme de dissuasion. On entre peu à peu dans cet équilibre de la terreur entre les deux grandes puissances, ce qui change complètement l'ambiance et qui change complètement les données stratégiques.
Robert Franck, il y a un aspect important sur lequel nous allons conclure cette réflexion sur les avant-guerres, avant 14, avant 39 et d'une certaine façon avant 1953. Un autre aspect, c'est le souci qui a été forcément celui des dirigeants et plus largement des sociétés de réussir à concilier la limitation de la hausse des déficits publics, qui paraît indispensable, et le compromis social qui assurerait l'indispensable unité nationale.
Il y a des tensions à gérer dans ces différentes avant-guerres. Avant 1914, c'est la tension autour de la loi des 3 ans. Cette loi des 3 ans divise complètement le pays. Il est intéressant de voir d'ailleurs que la gauche gagne les élections en avril 14. Précisément, la loi des 3 ans a joué un rôle. La gauche socialiste et les radicaux, du moins ceux qui étaient contre la guerre de 3 ans, ont fait une bonne campagne contre la loi des 3 ans. La gauche gagne les élections. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la gauche ne va pas abroger la loi des 3 ans. Donc on retrouve cette ambivalence. Parce qu'effectivement, on n'est plus en 1913, on est en 1914. Le danger est plus important. Et il n'y a pas de majorité à la Chambre pour l'abroger. Parce qu'effectivement, si les socialistes et les radicaux sont majoritaires, beaucoup de radicaux sont pour la loi des 3 ans et veulent la garder. Tension peut-être plus sociale dans les années 30. Là, c'est bien sûr tout autour de la loi des 40 heures qui est instituée en 1936. Et beaucoup disent, au moment où le danger est plus important, mais est-ce que cette loi des 40 heures n'est pas un frein à la production d'armement?
Et de fait, elle est assouplie à l'automne 38.
Oui, dès le mois d'août 38, Daladier, dans une allocution radiophonique, dit qu'il veut remettre la France au travail. Et le mot « travail » va devenir important. Dans aucun pays du monde, sauf la France et le Mexique, la loi des 40 heures n'est le régime normal du travail. Dans aucun pays du monde, on ne laisse chômer l'outillage un jour ou deux par semaine. Et quelques semaines plus tard, son ministre des Finances de la droite modérée, Paul Reynaud, va assouplir cette loi des 40 heures. Et effectivement, ce qui faisait problème, c'est que avec la loi des 40 heures, les heures supplémentaires étaient possibles, mais elles coûtaient très cher. Elles coûtaient 30% de plus, ça va être amené à 10%. Et bien sûr, cet assouplissement a lieu après la conférence de Munich, précisément où on se rend compte que le danger a été très grand.
Et une grève générale qui se dessine contre l'évolution des choses échoue, en fait, en novembre 38.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que l'esprit pacifique est ébranlé. Il existe toujours. Mais on se rend compte qu'il y a vraiment cette nécessité du réarmement, y compris dans une large partie de la population, et pourquoi pas population ouvrière, ce qui fait que cette grève générale décidée par la CGT du 30 novembre 1938 est plutôt un échec.
Eh bien, je vais vous faire entendre, ce sera notre dernière archive, un extrait d'une allocution radiophonique du ministre des Finances de l'époque, qui sera ensuite le président du Conseil de la guerre, après Daladier, qui est à l'époque chef du gouvernement. Le ministre des Finances, Paul Reynaud, s'exprime de la sorte à la radio le 21 avril 1939. Il pose très directement la question de la conciliation possible entre la menace de la guerre et le travail des Français, et en particulier des classes populaires.
Je m'adresse ce soir à vous tous, Français et Françaises, qui comprenez l'extrême gravité des heures que nous vivons. Ce n'est pas la première fois que je fais appel à votre esprit de sacrifice. La France, comme son allié l'Angleterre, a répondu en décidant de faire un grand effort. Cet effort que le gouvernement unanime a décidé va nous coûter 15 milliards. La course aux armements impose au peuple qui s'y livre des sacrifices immenses. Plus sont détruits de richesses dans les usines de guerre, plus il faut en produire dans le reste du pays. Les hommes qui sont appelés sous les drapeaux cessent de produire. Ceux qui restent doivent donc travailler plus longtemps. Il est des moments dans la vie d'un peuple où l'effort de chacun doit être doublé. À titre provisoire, le gouvernement a décidé que la durée normale du travail sera de 45 heures. Ces réformes permettront, par la production de richesses nouvelles, de compenser l'effort d'armement qui nous est imposé.
Robert Franck, voilà qui est assez clair. Il faut travailler davantage et renoncer par conséquent à un certain nombre des conquêtes sociales arrachées en 1936.
D'autant plus que l'ambiance a changé depuis Munich. En mars 39, Hitler jette le masque et il envahit le reste de la Tchécoslovaquie, montrant par là qu'il voulait pas seulement unir les Allemands, mais qu'il avait vraiment un plan d'expansion aux dépens des Slaves, etc. Donc là, ça sent vraiment la guerre. D'où cette demande de sacrifice, la durée normale du travail, dit-il, ça sera 45 heures, il institue même la possibilité de faire 60 heures dans les industries de défense nationale.
60 heures.
Ça va très loin, et au fond, il n'y a pas de grève. Là, c'est relativement accepté. On est dans une toute autre ambiance. C'est le moment où les sondages le montre, de 1939, où il y a véritablement la conviction qu'il peut y avoir, et c'est 45% de Français, c'est une majorité relative, qui pense que la guerre est pour cette année. Dans quelques mois plus tard, en juin-juillet 39, ça sera effectivement le sondage qui dit que les Français pensent que la guerre sera pour l'année 39 ou l'année suivante. Il y a donc vraiment cette conscience de guerre qui montre une certaine acceptation des sacrifices.
Cette acceptation fonctionne aussi en 1950, moment où Jules Mock s'exprime comme nous l'avons entendu.
Alors c'est Laniel qui est le président du Conseil en 1953, et pour assainir les finances publiques, nécessaires au réarmement, il veut donc diminuer les dépenses civiles, il veut diminuer le nombre de fonctionnaires, et il veut reculer de 2 ans l'âge de retraite des fonctionnaires et des ouvriers qui travaillent dans les usines d'État.
Jusqu'à quel âge ?
65 à 67 ans. Donc vous voyez, déjà les retraites. Il s'ensuit une grève très forte au mois d'août 1953.
Notamment des PTT.
Et finalement, Laniel retire les décrets-lois. Il peut se permettre ce luxe parce que, nous l'avons dit tout à l'heure, les Américains sont là, les Américains payent, les Américains financent ce réarmement. Et évidemment, c'est un luxe que ni les gouvernements d'avant 14, ni le gouvernement de Front Populaire et ses successeurs dans les années 30 n'ont eu.
Robert Franck, nous venons de parcourir pour comparaison des périodes apparemment lointaines, avant 14, avant 39, à certains égards avant 1952 ou 3. Je souhaite vous demander tout simplement pour conclure de confirmer ou d'infirmer l'idée qu'il y a des points communs avec aujourd'hui.
Oui, il y a sûrement des points communs, cette même incertitude, cette inquiétude.
Les sondages.
Il y a des sondages, et un sondage de 2023 montre que 70% des jeunes Français, entre 18 et 24 ans, ont peur que la guerre d'Ukraine ne devienne une guerre générale. Alors, c'est vrai que c'est une petite minorité qui sont très inquiets, la plupart sont plutôt assez inquiets, mais c'est assez significatif. Ces mêmes jeunes sont prêts à s'engager pour se battre si la France est en guerre. 70% des jeunes garçons, des jeunes gens, hein, 40 et quelques pourcents seulement pour les jeunes femmes, ça fait donc un tout de 57% de jeunes Français qui sont prêts à se battre. Donc il y a bien sûr cette inquiétude, il y a, je dirais, les mêmes nécessités de réarmer, la même difficulté de préparer les esprits, la même difficulté de gérer les tensions sociales, les retraites. Hein, les retraites sont une question importante actuellement, comme il l'était en 1953 lorsque Laniel voulait changer la loi pour les fonctionnaires et les ouvriers des usines d'État. Il y a le même discours sur le travail. François Bayrou, il n'y a pas longtemps, le 15 avril 2025, dit « La France ne travaille pas assez ». Ça ressemble un peu au Daladier qui voulait remettre la France au travail en 1938. Donc on trouve évidemment beaucoup de points communs. Le point commun aussi, c'est comment arrêter un dictateur qui peut être expansionniste.
Ça, c'est plus 39 que 14.
Voilà, c'est plus 39 que 14. Alors, les différences, c'est qu'on est dans l'ère nucléaire. Il y a quand même l'arme dissuasive, et on peut espérer qu'effectivement, on n'aura pas besoin. Mais du coup, on en revient à l'avant 14, parce que effectivement, si pour une raison ou une autre, Poutine se trouvait en difficulté et employait une arme nucléaire tactique contre l'Ukraine, bon, il n'y aurait pas forcément une frappe nucléaire du côté occidental, mais ça pourrait démarrer un engrenage. Donc on a effectivement ces deux inquiétudes. Je crois que ce qui est intéressant dans ces avant-guerres, c'est ce mélange, et sans plonger nos auditeurs dans l'effroi, il faut aussi parler de l'espoir, et c'est là aussi le point commun entre les ambiances de tous ces avant-guerres, c'est qu'on a ce même sentiment mêlé entre effroi et espoir.
Merci. Robert Franck, je vais citer quelques-uns de vos ouvrages. Celui qui s'intitulait « La hantise du déclin », paru chez Belin en 1994. Le déclin et cette hantise n'ont pas disparu. Et puis cet ouvrage important qui s'appelait « Le prix du réarmement français, 1935-1939 ». C'est un livre ancien, en 1982, aux publications de la Sorbonne, où vous êtes un de ceux qui a combattu l'idée fausse que le Front populaire avait perdu la guerre.
Oui, effectivement, le Front populaire a vraiment relancé le réarmement. Il y a un début de réarmement en 1934, qui est ralenti par le gouvernement Pierre Laval en 1935, et c'est le Front populaire qui le relance en 1936 sur le plan financier. C'est vrai qu'il faut attendre 2 ans pour avoir les résultats industriels. Beaucoup ont dit que la loi des 40 heures avait freiné. Oui et non. Elle n'a pas freiné parce que les usines, de toute façon, ne pouvaient pas produire tellement plus parce qu'elles étaient vétustes, et c'est la nationalisation faite par Pierre Cotte et d'autres qui ont permis de moderniser l'outillage.
Pierre Cotte, qui était ministre de l'aviation.
Pierre Cotte, ministre de l'air, a effectivement nationalisé les usines d'aéronautique et ça a modernisé l'outillage. Et c'est vrai qu'à partir de la fin 38, il était peut-être temps de passer à l'assouplissement des 40 heures, parce que c'est à ce moment-là qu'il y avait vraiment besoin d'avoir plus d'heures. Donc la fin du Front populaire, de ce point de vue, a avantagé ce passage de la loi de 40 heures à l'assouplissement de cette loi.
Je voudrais aussi citer le livre que vous avez publié avec Alia Aglan, votre collègue de la Sorbonne, qui s'appelait « La guerre monde » chez Gallimard en 2015. Alia Aglan, que j'ai reçu récemment pour parler de Cavaillès.
C'est un collectif, hein, il y a 44 auteurs. L'idée de montrer qu'il fallait faire une histoire mondiale, une guerre qui était mondiale, et pas seulement une histoire eurocentrée ou franco-centrée.
Et puis vous venez de publier, le livre vient de nous arriver, un livre consacré à Pierre Renouvin. Pierre Renouvin qui a été le grand maître de l'histoire des relations internationales, lui-même grand blessé de guerre en 14-18. Vous avez publié, elles étaient inédites, ces notes sur la guerre de 38 à 45, qui ne nous éloignent pas de la problématique qui est la nôtre ce matin, sur les avant-guerres.
Pierre Renouvin a beaucoup travaillé sur les origines de la guerre de 14, sur la guerre de 14 même, qui l'a meurtri, puisqu'il a été un mutilé de guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces notes trouvées dans une armoire de la Sorbonne, commence en janvier 38. Le titre va s'appeler, il va donner comme titre « Notes sur la guerre ». Évidemment, il ne donne pas tout de suite ce titre en janvier 38. Mais cela montre une chose, c'est peut-être, c'est mon hypothèse, qu'il sentait qu'on était, que la France était, que l'Europe était dans une ambiance d'avant-guerre. Et que lui, qui avait tellement étudié les origines de la guerre de 14, il avait envie de prendre des notes sur l'avant-guerre éventuelle pour pouvoir peut-être un jour s'en expliquer. Bon, il n'a pas écrit ce livre parce que ses notes sur la guerre, par la suite, montrent qu'il a été peut-être pas vichiste, peut-être pas pétainiste, mais maréchaliste, hein, en tout cas jusqu'en novembre 1932. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en mars 39, il fait un bilan en partie double. Quelles sont les chances de paix et quelles sont les chances de guerre, comme si c'était à égalité. Ce qui montre encore qu'en mars 39, même s'il commence à être persuadé que la guerre vient, il pense qu'il y a encore quelques chances de paix. On retrouve cette ambivalence entre inquiétude et espoir.
Merci beaucoup Robert Franck.
Merci à vous.
Je rappelle à nos auditrices, à nos auditeurs, qu'ils peuvent trouver une bibliographie plus complète encore sur notre site, avec les références et documents sonores que nous avons utilisés, et qu'ils pourront écouter, réécouter et podcaster cette émission. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Mathieu Leroy à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, Émilie Lacot.